Europe 1. Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, dernier tour de piste avant l'été. Une émission aussi rigoureuse que d'habitude, bien sûr, même si Stéphane a déjà l'esprit tourné vers les vacances, pour lesquelles il a 1001 projets.
Niqué ?
Oui, entre autres, 1001, on va pas tous les citer. Comme je vous le disais, il faut qu'on reste concentré jusqu'au bout. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Mathieu Noël, bonjour à tous. Je vous prie d'excuser mon acolyte qui, visiblement, n'a pas attendu le 3 juillet pour commencer sa cure de Spritz. C'est une émission rieuse, certes, mais toujours aussi rigoureuse qui vous attend cet après-midi. Autour non pas de 3 personnages, mais de 5. Si toutefois Mathieu arrive à compter jusque-là.
Difficilement, mais oui, ils sont 5 cet après-midi, puisqu'à l'occasion du lancement des soldes d'été, on a décidé de vous emmener faire les grands magasins, à la rencontre de ceux qui les ont vraiment faits et qui connaissent un rayon à leur sujet.
Eux, ils ont lancé à deux le Bon Marché, le premier grand magasin parisien, Aristide et Marguerite Boussicot, un lieu qui a même inspiré Émile Zola, qui en a fait le décor de son roman « Au bonheur des dames ». Les dames, elles étaient heureuses aussi de se rendre dans le grand magasin d'Ernest Cognac et de Marie-Louise Jay, ouvert quelques années après. C'est ensemble aussi que le couple parti de rien a donné vie à la Samaritaine, un lieu emblématique de la capitale, classé monument historique et qui reprend vie justement ces jours-ci à Paris. Quant à vous Mathieu, vous nous brosserez le portrait, bon à 99% vrai, d'un tandem plus contemporain qui s'est illustré aussi dans un grand magasin.
Des grands magasins, Stéphane, enseignent que, je le sais, vous méprisez un peu puisqu'on y trouve des chemises à 29 euros.
Oh seigneur.
Je vous raconte la saga de Hennes
ah,
et Moritz.
Ah c'était donc là,
oui,
vous m'avez
bien
enregistré ce son.
Il m'a dit, vous
un jour il m'a dit, vous voulez pas dire oh seigneur, je dis oh seigneur, mais c'était pour cette bêtise.
Cette découverte, c'est très pratique, c'est que j'avais demandé à mes équipes de trouver, vous disant au Seigneur, vous le dites parfois, oui. Juste on n'avait pas en enregistrement,
ah,
et
voilà.
Ils ont trouvé ce moyen, ce subterfuge, tout simplement, oui. De vous le faire dire à un autre moment.
Mais vous savez,
ça
j'adore H&M, mais ils sont, oui. Je croyais qu'ils étaient, oui, néerlandais.
Ah oui, mais surtout, ce n'est pas Hennes et Moritz, ce ne sont pas deux personnes en fait, il y a un créateur derrière H&M, ce n'est pas un tandem, comme j'ai pu le dire, c'est le Suédois Erling Persson qui a créé H&M, et c'est effectivement un Suédois.
Oui, très bien. Et avec nous, comme chaque jour, eux sont toujours bien habillés. Même si l'un d'entre eux a mis la même chemise toute l'année. Enfin, je précise, non, la même chemise, le même
modèle,
même
de
modèle
chemise,
de chemise, même couleur, etc.
Mais toujours propre.
Toute l'année. Toujours propre.
Toujours
et
propre.
Toujours, pas toujours repassé.
Oui, il y a une propre. Fois où je suis venu avec eux et, ah, voilà, et on me le fait payer.
Ah, mais jusqu'au bout. C'est le principe de cette émission. On prend un truc, on l'amplifie 1000 fois.
Alors, c'est David Castellopé,
oui.
Parce qu'on n'a toujours pas donné son nom.
Non, c'est vrai.
Et qui s'intéresse à
l'air conditionné.
À l'air conditionné.
Oui, c'est quand même un truc. Oui, c'est le froid dans les endroits où il fait chaud. C'est sympa.
Oui, ouais, c'est bien. Ça va être super, les stades pour le. La Coupe du Monde
au
de
Qatar.
Foot
oui,
au Qatar,
bien sûr, ça va être hyper climatisé, ça
tout
va être bon
climatisé bien.
Pour l'environnement.
La planète, elle va être contente.
Alors, calmez-vous Stéphane, Greta Thunberg, passez la parole plutôt.
Elle est un peu notre Greta Thunberg à nous.
Ah, oui.
Elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde, elle les démonte, elle les remonte. C'est Clément Dandina, portier Kaltenbach.
Oh, mais là, vous avez tout à fait raison, parce que depuis que j'ai gagné à Born to be Alive un super manga pornographique, eh bien, je suis une toute autre femme. Et alors, j'avais à cœur de terminer cette saison de manière grandiose,
ah,
avec non pas l'évocation justement de ce manga que j'ai gagné ces jours-ci, mais en évoquant les dieux grecs, véritables dieux du sexe. Oui, ils en connaissent un rayon en sexualité. Et pour vous, j'ai lu une passionnante interview de l'helléniste Giulia Sissa, auteur de nombreux ouvrages sur la sexualité sous l'Antiquité. Voyez, ça promet une sortie triomphale.
Très bien. Avec nous également Olivier Pouls.
Je cherche une transition.
Sa narine sexuelle, c'est le plat préféré des Français. L'un des plats préférés des Français.
L'un des trois préférés, et c'est le couscous,
oui,
qui est un incontournable.
Vous voyez pourquoi j'ai pas trouvé de transition, c'est pas facile. Oui,
vous étiez dans la semoule, mon pauvre.
Dans la semoule.
Alors, c'est un plat 4 saisons, et puisque nous sommes en été, bien évidemment, je vous en proposerai une version estivale.
Ok. Enfin, c'est le seul moment de l'émission où le savoir-vivre et l'élégance légendaire de Stéphane Bern sont pris en défaut, puisqu'à l'issue d'une énième mauvaise réponse, il s'exclame souvent
« Merde ».
Aux alentours de 5h-10, nous jouerons à Born to be Alive, ce jeu qui fait souvent sortir Stéphane de ses gonds. Mais tout de suite, le petit Stéphane Bern est attendu pour son récit. Oui, pour commencer, Stéphane nous raconte Aristide et Marguerite Boussicot qui en connaissent un rayon sur les grands magasins.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Aujourd'hui, il n'a de bon marché que le nom. Il est devenu le temple de l'élégance à la française au cœur de Paris. Il y a plus de 160 ans, il était le premier grand magasin au monde, imaginé par un couple d'entrepreneurs audacieux, pourtant partis de rien. Stéphane Bern nous raconte Aristide et Marguerite Boussicot, les inventeurs du bon marché.
C'était comme une nef de gare entourée par les rampes de deux étages, coupée d'escaliers suspendus, traversée de ponts volants. La réalisation moderne d'un palais du rêve, d'une Babel entassant des étages, élargissant les salles, ouvrant les échappées sur d'autres étages et d'autres salles à l'infini. C'est bien d'un grand magasin dont on parle, et c'est l'écrivain Émile Zola qui le raconte ainsi dans son roman « Au bonheur des dames » paru en 1883, qui a pour toile de fond le nouveau bon marché qui a ouvert ses portes, dans la version que l'on connaît, quelques années plus tôt sur la rive gauche de la capitale. Un grand magasin né au XIXe siècle où les femmes se ruent chaque jour pour assouvir une passion toute récente, faire des emplettes. À la tête de cette cathédrale moderne, comme l'a décrit Zola, un couple, Aristide et Marguerite Boussicot, deux fortes personnalités qui ont réussi à déjouer tous les pronostics et à changer leur destinée. Car à l'origine, rien ne prédestine les Boussicot à diriger l'une des entreprises françaises les plus florissantes du XIXe siècle. Aristide est né en 1810 à Bellem, dans le Perche. Après avoir travaillé comme commis dans le magasin de chapeaux de son père, il arpente les marchés de la région pour vendre des bonnets. À 25 ans, il quitte la Normandie et tente sa chance à Paris. Il devient vendeur dans ce qu'on appelle alors un magasin de nouveautés, le Petit Saint-Thomas. Marguerite, quant à elle, endure une enfance difficile. Elle ne connaîtra jamais son père. Pour subvenir à ses besoins, elle officie comme gardienne d'oie. Elle quitte elle aussi sa province pour la capitale où un oncle l'accueille. D'abord blanchisseuse, elle trouve un emploi dans une charcuterie chaude, un bouillon où les ouvriers se restaurent en dégustant des plats roboratifs. C'est ici qu'Aristide et Marguerite se rencontrent. Nous sommes en 1835 et les deux provinciaux, montés à Paris pour faire fortune, ne se sépareront plus jamais, même s'ils prendront le temps de se marier. Il faut avouer que leur amour aurait pu péricliter. La famille d'Aristide ne voit pas d'un très bon œil cette union avec une jeune femme d'une condition sociale très basse. Mais en 1848, Aristide et Marguerite se disent enfin oui. La même année, alors que la Révolution place au pouvoir Napoléon III, Aristide perd son emploi mais trouve un poste dans un magasin appelé Au Bon Marché, rue du Bac. Il s'affaire, il vend, il fait venir des clients. Alors, les frères Vidot, propriétaires des lieux, lui proposent de s'associer avec eux. En juin 1853, Aristide injecte dans l'affaire toutes ses économies. La boutique compte seulement 4 rayons, 12 employés, mais réalise un chiffre d'affaires conséquent de 450 000 francs. Leur collaboration prend fin au bout de 10 ans. 10 années durant lesquelles Aristide Boussicot ne cesse de vouloir révolutionner la vente. Invitations envoyées aux clients pour venir découvrir leur collection, possibilité de toucher les tissus, les rubans, les étoffes, sans obligation d'achat. Pour les frères Vidot, c'en est trop. Ils craignent que l'intrépide Boussicot ne les conduise à la banqueroute avec ses idées saugrenues. Ils se retirent de l'affaire. Pour Aristide et sa femme Marguerite, il s'agit là d'une occasion en or pour se lancer seul dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Mais le couple a un problème, et non des moindres. Il ne dispose pas des fonds nécessaires pour racheter des parts des frères Vidot. Qu'à cela ne tienne, Aristide et Marguerite ont une idée. Ils détaillent leur projet à un ami, Henri Maillard. Comme Aristide, il est originaire du Perche. Il a fait fortune outre-Atlantique en ouvrant des pâtisseries, notamment à New York. L'homme d'affaires accepte d'aider le couple en leur prêtant 1 500 000 francs, une somme colossale à l'image du projet pharaonique des Boussicot. Pendant 18 ans, Au Bon Marché ne cesse de se transformer. Aristide et Marguerite rachètent petit à petit les maisons, les immeubles et locaux qui jouxtent le magasin. Ils font appel aux meilleurs architectes et ingénieurs de l'époque, parmi eux un certain Gustave Eiffel. Le père de la future tour Eiffel est chargé de la nouvelle structure en fer et en verre de la bâtisse. Ces verrières, encore visibles aujourd'hui, permettent aux vêtements, aux étoffes, aux objets de capter directement la lumière naturelle pour le plus grand bonheur de ces dames. Toujours à la pointe de la technologie, les époux Boussicot sont les premiers à introduire l'électricité dans leur magasin qui s'étend désormais sur 52 000 mètres carrés, compte 74 rayons et plus de 4 000 employés. Les salariés doivent se plier à des directives strictes. Parmi elles, le client ne dépend pas de nous, c'est nous qui dépendons de lui. Boussicaut a le sens de la mise en scène, de l'étalage. Alors qu'ailleurs, les produits, par manque de place, sont soigneusement rangés et sortis uniquement à la demande de la cliente, au bon marché, Aristide et Marguerite veulent que tout soit visible. Les couleurs, les motifs, les matières sautent aux yeux des potentielles acheteuses. Elles ne doivent plus savoir où donner de la tête. Ils instaurent également le principe auquel Aristide croit depuis le départ. L'entrée libre dans le magasin sans obligation d'achat, mais aussi l'affichage des prix. Jusqu'à présent, on parlait de prix à la binette, comprenez à la tête du client. Tout cela dans un seul et unique but, celui d'attirer une nouvelle cible susceptible d'acheter, les femmes. Et dans ce registre, Marguerite Boussicaut va tenir un rôle essentiel et elle n'aura pas vraiment le choix. Oui, l'objectif d'Aristide et de Marguerite est de créer un lieu où toutes les femmes, quelles que soient leurs origines géographiques, leurs conditions sociales, aiment à se retrouver et à dépenser ce qu'elles ont gagné. Pour y parvenir, Marguerite Boussicaut a l'idée de remplacer les vendeurs exclusivement masculins par des demoiselles de magasin. Elles sont jeunes, elles sont jolies, serviables et surtout, elles travaillent 13 heures par jour pour satisfaire les moindres desiderata des clientes. Pour que les acheteuses soient pleinement satisfaites, le bon marché propose des produits venus de partout dans le monde, à des prix moins chers que chez les concurrents, quitte à baisser les marges, seulement 13% là où d'autres boutiques sont parfois à 40%. Dans les rayons, on trouve notamment des gants, des robes, des miroirs, des chapeaux, des chaussures, du maquillage, du parfum, des ombrelles. Pour faire patienter les maris, Aristide et Marguerite créent des salles d'exposition, des salles de repos ou de lecture. Ils offrent des ballons aux enfants. Visiblement, au bon marché, tout le monde est content. Puis le couple Boussicaut invente les soldes et le mois du blanc en janvier. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas se déplacer, ils éditent et envoient leur premier catalogue de vente par correspondance. Leurs employés, eux aussi, sont choyés. Dès 1863, les Boussicaut font chômer les dimanches et les jours fériés. Ils instaurent des congés payés et une caisse de retraite. Et ils créent une prime d'intéressement pour les vendeuses et les vendeurs. Un médecin est sur place, en permanence, pour veiller à la bonne santé des employés. Une cantine gratuite voit le jour. Mais cette alchimie professionnelle entre les deux époux s'arrête net en 1867. Aristide meurt subitement. Marguerite, jusqu'alors dans l'ombre, reprend seule le flambeau. La patronne n'a pas oublié ses origines très modestes et s'applique à traiter ses employés avec respect. Elle crée notamment une allocation pour les jeunes femmes qui accouchent. Elle met en place des distributions de lait, met en place des hospices pour les filles mères. Lorsqu'elle s'éteint, le 12 décembre 1887, 10 ans après son époux, son testament est on ne peut plus clair. Marguerite Boussicaut lègue la moitié de sa fortune au personnel du bon marché. Sa tombe, au cimetière du Montparnasse, est à juste titre couverte de plaques de remerciement de ses anciens salariés. Et le bon marché, lui, est toujours ouvert.
Europe 1, historiquement vôtre.
Quelle belle histoire que celle d'Aristide et Marguerite Boussicaut. Pour continuer à en parler, nous sommes, Stéphane, avec le chercheur Anthony Galuzzo. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Bonjour Anthony Galuzzo, vous êtes maître de conférences à l'Université de Saint-Étienne et vous avez publié « La fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande » aux éditions de La Découverte. Aristide et Marguerite Boussicaut, en créant le bon marché, ont façonné le consommateur. Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont jeté les bases de cette société marchande et d'un mode de consommation toujours en place aujourd'hui ?
Tout à fait. Eux et d'autres à travers l'Occident, ils ont fait partie des pionniers. L'entreprise des Boussicaut est particulièrement remarquable et pionnière.
L'une des grandes révolutions, alors il y en a plein, mais apportée par les grands magasins et par le couple Boussicaut dont on a parlé, c'est de mettre le chaland directement au contact de la marchandise. Jusqu'avant ça, le client n'était pas au contact de la marchandise. On devait passer par des boutiquiers, c'est ça ?
Oui, effectivement. Alors, pour bien comprendre en quoi les grands magasins sont une forme, un dispositif véritablement révolutionnaire à l'époque, il faut comprendre l'ancien monde marchand. On était sur un commerce très local, avec des petites échoppes très spécialisées, et on avait un contact avec la marchandise, avec les objets, qui étaient finalement assez rares, puisque souvent ces marchandises, ces objets étaient tenus hors de portée, dans des tiroirs, dans des étagères, derrière des comptoirs, et il fallait à chaque fois passer par la médiation du marchand. On ne pouvait pas librement manipuler ces objets. Et on avait un modèle commercial qui était tout autre aussi, c'est-à-dire qu'on vendait assez peu, à des prix quand même assez élevés, et cette marchandise se renouvelait assez peu. On avait parfois des objets comme ça qui prenaient la poussière sur ces étagères pendant des années. On avait assez peu de rotation des stocks, assez peu de fluidité dans ce balai de marchandises. Et tout à l'inverse des boutiques, les grands magasins vont s'imposer avec un modèle qui est basé sur la contemplation, le plaisir, avec avec tout à l'inverse, hein, des prix bas, un grand renouvellement des stocks, on essaye de vendre en masse, on essaye vraiment de vendre beaucoup pour accumuler beaucoup de capital et comme ça développer son empire commercial.
Mais il y a une double révolution. D'abord, c'est qu'avant les femmes, eh bien, elles ne sortaient pas, elles n'allaient pas dans les magasins. D'abord, dans les boutiques. En fait, les couturières allaient chez elles et elles recevaient les modistes à la maison. Et là, pour la première fois, elles sortent, elles peuvent toucher, elles peuvent... voilà. Et puis, évidemment, c'est spectaculaire. Il y a une spectacularisation, comme vous le dites.
Oui, effectivement, on a une spectacularisation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? On a une marchandise qui se vend elle-même, en fait, à la force de sa propre esthétique spectaculaire. On va la mettre en scène pour qu'elle se vende elle-même. Alors, on a plusieurs techniques de scénographie. On a tout d'abord les vitrines. On va créer de très grandes vitrines pour pouvoir hameçonner les badauds depuis la rue. On a tout ce qui est architecture et mobilier, hein, avec le fait de concevoir, d'architecturer des intérieurs avec un lustre royal, des colonnes, des candélabres, du marbre, du bois précieux, etc. Mais aussi de la modernité technologique, des ascenseurs, les premiers systèmes de ventilation, d'éclairage électrique, etc. Alors, concernant les femmes, effectivement, comme vous le disiez, on a quelque chose là, au niveau sociologique, qui est assez révolutionnaire, c'est-à-dire que les ces grands magasins vont attirer tout un ensemble de femmes de la bourgeoisie qui vont déambuler dans les espaces publics. Et c'est quelque chose qui, à l'époque, est choquant pour les conservateurs, notamment puisque l'espace public est masculin. Et en fait, c'est pas du tout anodin, c'est intégré dans les stratégies des grands magasins, à travers les archives, la correspondance. Ils en avaient parfaitement conscience et ils se sont appuyés en fait sur ce mouvement de libération féminine pour asseoir leur magasin comme un lieu de sociabilité féminine.
Alors, on va continuer à parler de nos personnages qui ont fait les grands magasins et d'Aristide et Marguerite Boucicaut en particulier avec notre invité Anthony Galluzzo sur Europe 1. À tout de suite.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Grand magasin, ils en connaissent un rayon. C'est notre thème cet après-midi dans Historiquement vôtre à l'occasion de l'ouverture des soldes d'été. Et on parle d'Aristide et Marguerite Boucicaut avec notre invité Anthony Galluzzo. Vous rappelez dans votre livre, Anthony, La fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande, que les grands magasins reposent aussi beaucoup sur le principe d'abondance, d'éternel renouvellement. Mais vous soulignez que ce n'est pas une abondance synonyme de chaos. C'est en réalité, c'est savamment orchestré. De quelle façon ?
Oui, effectivement, on a des étalages comme ça, gargantuesques, massifs, et ce chaos qui est effectivement très bien ordonné au final, puisque c'est quelque chose qui est recherché. On essaye de créer cette impression de chaos pour amener le chaland à découvrir, alors tout d'abord à être ébahi, à être impressionné par ces étalages, et ensuite à essayer de stimuler son imagination, l'amener à explorer. Et ce faux désordre, en fait, amène donc à améliorer les ventes, à sédentariser à nouveau la population sur les lieux de vente.
Je reviens encore sur cette idée qu'il fallait que les femmes se précipitent en masse dans les grands magasins et consomment. On occupe les maris, on occupe les enfants, tout est étudié pour qu'il y ait le maximum de consommateurs.
Effectivement, on a tout un ensemble de services qui permettent de retenir et de sédentariser. En allant dans les grands magasins aux États-Unis, en Angleterre ou en France, on peut de plus en plus aller dans des salons de lecture, des salons de beauté, passer à la garderie pour déposer ses enfants, etc. Et en fait, on a cette logique de service qui permet justement de renforcer la sédentarisation de la clientèle. C'est un objectif stratégique pour les patrons des grands magasins, puisqu'effectivement, faire en sorte que ces grands magasins deviennent un second foyer, notamment pour la clientèle féminine. Ça permet en fait de créer cette espèce d'envers. En fait, on avait déjà à l'époque des hommes qui avaient des lieux de socialisation exclusivement masculins avec les clubs. Là, on essaye, les grands magasins essayent explicitement de sédentariser ces femmes issues de la bourgeoisie pour vraiment créer des habitudes, en fait, créer, comme je l'ai dit, un second foyer.
Finalement, les grands magasins se visitent pour les touristes presque comme un monument.
Oui, tout à fait. Ça, c'est d'ailleurs d'où l'importance de créer ce qu'on appelle, dans la littérature historique, en recherche, on a repris énormément ce terme, les cathédrales de la consommation. C'est vraiment des temples dédiés à la consommation. Et alors, ça peut nous sembler assez finalement banal aujourd'hui, puisque on a l'habitude aujourd'hui et depuis des décennies de déambuler dans des espaces marchands assez spectaculaires. Mais il faut se remettre dans une logique de rareté qui était celle de l'époque. Ces grands étalages, ces grands édifices vraiment très luxueux, c'était des lieux qui jusqu'alors en fait étaient des lieux, des espaces privés dédiés à l'aristocratie, à la très grande bourgeoisie. En fait, il y a cette espèce de massification du luxe qui participe d'un spectacle et qui va permettre effectivement de créer des espaces qui sont certes des espaces d'achat et de vente, mais des espaces de consommation au sens plus large, hein, c'est-à-dire qu'on vient passer du temps, on vient au final faire du shopping, c'est-à-dire exercer une espèce d'activité de divertissement.
Mais c'est vrai que, vous l'avez rappelé, les grands magasins ont tout inventé, se sont adaptés, il y a l'architecture, les ascenseurs, l'électricité, etc. Mais à l'époque, évidemment, comme c'est encore réservé à la bourgeoisie, l'aristocratie, il y a une petite frange de la population. À quel moment ça évolue et que, en part de vente, par exemple, ça s'est mis à exploser et que ça devient le commerce de masse, en fait?
Alors, ça reste minoritaire. Néanmoins, ce qui est important dans le grand magasin, c'est l'émergence de techniques. Dans les grands magasins, ils ont accumulé, aggloméré tout un ensemble de techniques commerciales, de formules, on l'a évoqué, avec l'entrée libre, les prix fixés, la libre déambulation, tout un ensemble de techniques de spectacularisation. Et c'est ça, véritablement, cet héritage-là, cet héritage architectural, conceptuel, que vont reprendre ensuite au XXe siècle tout un ensemble de nouveaux dispositifs marchands, comme par exemple, ensuite, à la destination des classes populaires dans les années 20, les prises uniques dans tout l'Occident, et ensuite, plus tard dans le XXe siècle, l'émergence des formes qu'on connaît bien aujourd'hui, le supermarché, l'hypermarché. Donc c'est une origine qui est véritablement technique, plus que véritablement commerciale, au sens de la réussite vraiment chiffrée, massive.
Mais écoutez, merci beaucoup Anthony Galluzzo. Pour tout savoir sur ces cathédrales de la consommation comme le Bon Marché et pour toutes les techniques qui font de nous des serial shoppers, oui, c'est un peu ça. Je rappelle votre livre « La fabrique du consommateur, une histoire de la société marchande » qui est paru dans la collection Zone aux éditions de La Découverte. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi.
Merci.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16 heures, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires sur des sujets où, comme nos personnages du jour, elle en connaît un rayon. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, on remonte très loin, mais très très loin dans le temps, à la rencontre des dieux grecs qui, eux aussi, en connaissaient un rayon, notamment dans le domaine qui a toutes vos préférences, évidemment, c'est la sexualité.
Oh, mes préférences.
Oui, on commence à les connaître.
Petit canaillou, oui. Si vous croyez qu'en une saison, nos auditeurs n'ont pas bien compris que les obsédés sexuels, c'était vous, et que moi, je défendais la paix des ménages. Ah mais bon. Aujourd'hui, mon exposé, d'ailleurs, sera purement historique, n'est-ce pas? Je parle d'un sujet que moi-même, je maîtrise très mal. Alors, vous savez que dans la mythologie grecque, tout de même, tout commence par le sexe. Il y a deux récits qui sont les sources essentielles de la mythologie grecque. Il y en a un, vous allez me le citer tout de suite, spontanément. Exactement, l'Iliade et l'Odyssée, c'est Homère. Et l'autre récit, c'est la Théogonie d'Hésiode. La Théogonie, c'est un texte du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est le récit de l'origine des dieux. Alors, au commencement d'ailleurs, c'est assez proche de la Bible. Dans la Théogonie, qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est qu'il y a le chaos, le vide et la nuit. La nuit qui d'ailleurs se dit Nyx, ça finit déjà par un X, donc c'est très prometteur tout ça. Eros est le dieu primordial de l'amour et de la puissance créatrice. Il est issu de ce chaos. Hein. C'est le premier dieu et c'est lui qui permet l'union de la terre, Gaïa, puissance féminine, et du ciel, Ouranos, puissance masculine. Et Eros va bien sûr donner le nom
d'érotisme.
Et voilà, oui, exactement. Bah, oui, ça, vous êtes très bon élève, vous avez le droit
pour
à une image.
Pas très difficile.
Les titans sont nés du coït de la terre et du ciel. Ils vont à leur tour engendrer des dieux. Alors les dieux, ils sont immortels, bien sûr, les dieux, mais ils sont nés. Il y a un moment, ils sont nés. Donc si vous naissez dans une famille, vous avez un père, une mère, et comme les humains, bah, vous avez aussi ensuite, vous cherchez l'amour, vous avez des problèmes de cœur, des rivalités amoureuses, des jalousies. Donc les dieux nous ressemblent beaucoup, en fait. Si vous prenez Zeus, le premier des dieux, qui règne sur l'Olympe. C'est un grand séducteur. Et il a une sexualité très polyvalente. Il se transforme très souvent pour posséder les femmes qu'il convoite. Hein. Alors là, ça donne lieu à une iconographie extrêmement riche. Par exemple, il se transforme en cygne pour approcher Léda. Il se transforme en puissant taureau blanc pour posséder Pour posséder qui?
Pour
en
posséder,
taureau blanc,
je ne sais pas.
Europe. Oh non, vous êtes nul en fait. Hein. Alors il se transforme en coucou pour approcher Héra, sa future femme, avec qui il aura beaucoup de scènes de ménage. Et en serpent pour courtiser Perséphone, en étalon, en aigle et même en pluie d'or. Si c'est pas beau ça, pour conquérir la belle Danaé, voilà. Alors de nos jours.
Mais comment tu copules avec quelqu'un quand tu es une pluie d'or?
Eh ben voilà, vous la pénétrez par tous les pores de la peau. C'est très beau. Bon. Enfin, inutile de vous dire que de nos jours, Zeus aurait de sérieux problèmes avec MeToo, oui. Parce qu'il kidnappe et il viole à tour de bras, ça va pas du tout. Alors, autre personnage du Panthéon et de l'Olympe extrêmement connu, c'est Aphrodite, la déesse des unions érotiques et du mariage. Elle surgit du sperme du ciel, Uranos, qui est répandu dans la mer Égée. Donc, quand vous voyez l'écume de la mer, dans la mer Égée,
c'est du sperme.
Et ben, c'est le sperme d'Uranos. Et Uranos lui-même a été castré par son propre fils Cronos. Vous suivez toujours, messieurs, ouais, bien sûr. Alors, voyez-vous, les amours divines sont essentiellement hétérosexuels, mais il y a quand même quelques exceptions. Par exemple, l'amour entre Zeus et Ganymède. Ganymède, c'est un jeune garçon que Zeus kidnappe et hop, il l'emmène dans l'Olympe. Mais il arrive aussi à Zeus de se transformer en femme pour conquérir une femme. Par exemple, il se métamorphose en déesse Artémis pour séduire Callisto, qui est une suivante de la déesse Artémis. Voilà, donc il est en femme. Vous voyez, c'est les dieux grecs, d'une manière générale, ils sont hyper genrés. Soit ils sont hyper féminins, soit hyper virils. Mais les attributs, les cartes peuvent être brouillées. Par exemple, la déesse de la chasse, c'est une femme, c'est Artémis. Mmh. Et pour la guerre, c'est une femme, c'est Athéna. Donc ces déesses-là sont des vierges qui résistent à toute forme de séduction. Athéna, elle est inviolable parce qu'elle représente, elle incarne la cité d'Athènes, donc pas de touche, on ne peut pas y toucher. Bon, évidemment, il y a de la bisexualité chez les dieux grecs. Apollon est le dieu de la beauté, il est tout à fait bisexuel. Et Hermaphrodite, c'est encore plus fort, elle est dotée d'organes génitaux mâles et femelles. Mais Aphrodite aura des amours féminines comme masculines. Vous voyez, l'idée des Grecs, c'est que, en fait, chacun de nous appartient à une espèce disparue qu'on appelle les sphères. Et chacun d'entre nous a une moitié séparée. Et notre vie entière, nous cherchons à reconstituer cette sphère par l'amour, si c'est pas beau ça. Alors, donc finalement, même si les dieux aiment bien tenter toutes les expériences, ils sont quand même assez conventionnels. Leur modèle dominant, c'est le couple hétérosexuel stable. Donc ils essayent tout, mais bon, en gros, on essaie de former un couple stable avec, bon, évidemment, des hauts, des bas, du plaisir, des infidélités, de la jalousie, etc. Alors on leur a compris, malgré tout, finalement, ce qui compte le plus dans l'Olympe, comme sur le plancher des vaches où nous vivons, nous autres pauvres mortels, c'est de trouver sa moitié. Voilà, tout est là.
Bah merci Clémentine.
Voilà comment une chronique sur le sexe se termine en éloge du mariage.
De la monogamie, alors qu'on est parti très loin, avec quand même, il était question quand même de pénétrer tout le monde avec des.
Bah oui,
avec des
c'est.
Flèches d'or.
Bah, Dieu, enfin, c'est. Oui, Danaé,
c'est très, très chaud.
Que je vous dis
très,
ça,
très chaud.
C'est la vérité.
Convoquant maintenant le dieu du quiz, Bernos, sera-t-il clément envers Stéphane? Le quiz dans un instant.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
L'heure du quiz a sonné. Je précise qu'en cette ultime semaine de la saison, nous nous dirigeons vers une dernière en forme d'apothéose vendredi, puisque pour cette dernière, Clémentine nous a fait une promesse.
Pédicabo ego vos, qui veut dire en latin, je vous enculerai tous.
Oui, vivement la dernière, J-3. En attendant, jouons à Bern to be alive.
Je signale que c'est du Catulle, l'ancien, dans un de ses chants.
Je ventile parce que là j'étais tellement choqué.
Vous ventilez ?
Moi aussi je suis choqué.
Vous êtes choqué
comment
par vous-même.
Vous avez pu dire une chose pareille.
À l'antenne d'Europe 1.
J'ai cité du Catulle et c'était pas à l'antenne. C'était off.
On n'est pas obligé de citer Catulle non plus. Hein.
Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Attention, là il y a du niveau. Guitry, Cocteau et Zola ont un point commun. Ils ont raté leur bac. Vrai ou faux ?
Ah, je crois oui.
Les trois. Enfin,
ah non, peut-être pas. Peut-être pas. C'est ma question. Que Guitry, oui. Zola, peut-être pas.
Sartre.
Vous avez dit ça ?
Non, j'ai dit Cocteau.
Cocteau.
Zola et Guitry.
Ah, je sais pas, vous savez, quand on lit les auteurs, on ne leur demande pas s'ils ont le bac ou pas. Hein. Mais j'ai envie de dire oui.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, Stéphane. C'est vrai, aussi incroyable que ça puisse paraître. Guitry s'est fait plusieurs fois renvoyer de son établissement scolaire. À son père, le directeur a dit « J'aimerais renvoyer votre fils, mais je ne peux pas, il ne vient jamais. » Zola a eu des épreuves orales catastrophiques. Il aurait confondu Saint-Louis et Charlemagne, sûrement à cause de son émotivité. Et Cocteau, à l'époque du bac, préférait faire la bamboche. Il rate le bac avec la mention « lamentable ». La légende dit qu'il aurait été dépucelé à cette époque par Mistinguette. Petite info en plus. Question numéro 2. Pour vous, Clémentine Portet-Keltenbach, Le Figaro, journal prestigieux qui avait perdu de sa superbe ces dernières années avant de revenir au top, notamment grâce aux J'accuse de l'année, signé Stéphane Bern. Madame Pompili, les éoliennes sont une négation de l'écologie. Est-ce que Napoléon Bonaparte aurait pu feuilleter, non pas cet édito, mais le journal, Le Figaro?
Non, je pense qu'il n'aurait pas pu. Parce qu'il me semble que Le Figaro, est-ce que c'est pas 1860, création des...
C'est avant 1820. Ça Ah, ça va se jouer à un an près. C'est 1820 ou 1821, Le Figaro.
C'est 21 avec quel j'ai confondu avec un autre journal.
Il est mort en 21,
journal.
Enfin, attendez, on peut considérer que le temps que Le Figaro arrive, quand bien même Le Figaro serait... Attendez, il est 1820 ou 1830.
Ça cogite. Tempête sous deux
le
crânes.
Le temps qu'il arrive à l'île de Sainte-Hélène, je pense...
Que Napoléon aurait déjà été mort. Ah, ça va se jouer à très peu, ouais, comme très d'habitude. Peu.
Mais en tout cas, je sais
que Figaro,
c'est
un des, c'est le plus, il me semble que c'est le plus vieux quotidien français.
Je sais que c'est de mémoire ou 1820 ou 1830.
Bon, écoutez, on va dire non. De toute façon, Napoléon ne recevait pas la presse française à un certain moment. Donc de toute façon, il n'aurait pas pu lire Le Figaro. Il lisait la presse anglaise et c'est pour ça qu'il a appris à parler anglais.
Vous avez gagné.
Bravo, et j'ai envie de dire bravo à tous les deux. Napoléon est mort en 1821, Le Figaro est né d'abord sous la forme d'un petit journal satirique en 1826.
Ah.
On connaît la devise du journal « Sans liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur ». C'est dans le mariage de Figaro de Beaumarchais. Beaumarchais qui a dit également « En amour, les jeunes paient pour ce qu'ils font, les vieux pour ce qu'ils ne font pas ». C'était une autre situation qui ne mettre en exergue du Figaro, mais ils n'ont pas choisi celle-ci. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Je le dis souvent dans ce quiz, dans la mythologie grecque, il y a un dieu pour tout. Quand on ouvre une porte, il y a une poignée. Pour que la porte s'ouvre, il y a des gonds. Eh bien, Karna est la déesse des gonds. Vrai ou faux?
Vous allez me faire sortir de mes Karna.
Est-ce qu'il y a vraiment un dieu pour
Karna,
tout dans la mythologie grecque,
je
comme on le dit souvent?
Je crois qu'il y avait des dieux pour tout.
Mais c'est même les gonds.
D'abord, est-ce qu'il y avait des gonds portes dans l'Olympe des dieux? Non, il n'y avait pas de portes, il n'y avait pas de gonds.
Mais si, il y a les grandes portes, les grandes portes des cités, il faut bien qu'elles aient des gonds.
J'adore cette idée.
Vous avez gagné.
Vous avez gagné, Stéphane, contre toute attente.
Non.
Mais oui, vous avez gagné.
Je sais.
C'est le poète latin Ovide qui en parle le mieux. La déesse Karna ferme ce qui est ouvert, ouvre ce qui est fermé. Sachez qu'elle est célébrée le 1er janvier, car elle ouvre l'année au jour qui s'allonge.
Alors, ce qui veut dire qu'on peut l'invoquer pour toutes sortes d'ouvertures.
Oui, toutes sortes d'ouvertures, pas seulement les gonds, en fait. C'est beaucoup plus large, son domaine de compétence.
Ouvre-moi la porte. La déesse des gonds. Non, je n'ai rien dit.
Oui, vous êtes lancé dans une interprétation.
Il n'empêche que j'ai gagné.
Oui, vous avez gagné 2-1. Là, pour le coup, que des bonnes réponses aujourd'hui. Vous êtes stupéfiant. Question numéro 4, Clémentine. Pour vous, Clémentine, évoquons la Rome antique. Une ataraxia était une maison que l'on avait obtenue grâce à des faveurs sexuelles ou, pour les prostituées les plus cotées, grâce à une seule faveur sexuelle. Vrai ou faux?
Qu'est-ce que l'ataraxie, déjà?
Non.
Vous taisez. Ouais. Et Clémentine réfléchit.
L'ataraxie...
J'aime tellement savoir quelque chose que vous ne savez pas.
Aussi,
c'est délectable. Réfléchissez.
Redites-moi votre question. C'est une faveur sexuelle?
Dans la Rome antique, une ataraxia était une maison que l'on avait obtenue grâce à des faveurs sexuelles ou, pour les prostituées les plus cotées, grâce à une seule faveur sexuelle.
Écoutez, j'ai connu le sens de ce mot que j'ai oublié pour le quart d'heure, mais je ne me souviens pas que ça a eu un rapport avec la sexualité des prostituées romaines, donc je réponds non.
Vous avez gagné.
Même quand elle ne sait pas, elle s'en sort par le raisonnement.
C'est la plénitude des dieux.
C'est la plénitude des dieux, mais ça peut être aussi humain, c'est l'absence de trouble dans la philosophie grecque, donc la quiétude de l'esprit, si vous voulez. Et si j'en crois...
C'est l'absence de sensation, en fait, non? C'est une sorte de plénitude, de béatitude.
Non, c'est un équilibre des choses, vous êtes bien. Le philosophe, dans la Grèce antique, cherche l'ataraxie. C'est ce qu'on doit tous rechercher nous-mêmes à notre propre niveau. Et si j'en crois à Paris Match du 14 juin 2017, c'est également ainsi que Stéphane Bern a surnommé sa maison en Grèce. Grèce. Hein, j'en précise pour remercier Stéphane qui a invité toute l'équipe là-bas cet été. C'est vrai que ça fait quand même, c'est sympa, hein, 15 jours comme ça, tout frais payé. On est content. De partout, égalité, pour une fois non truquée.
Non, c'est incroyable.
Vous êtes prêts ? Le Miserere d'Allegri est un chant grégorien polyphonique composé vers 1638. Je ne vous l'interpréterai pas ici, car premièrement, il faudrait que je m'échauffe la voix, mais aussi parce qu'il faut 9 voix. Longtemps, seul le Vatican détenait la partition. Quiconque la volait risquait l'excommunication. Cette musique a connu un destin particulier. Pourquoi ? 3 propositions.
Parce que Mozart l'a écrite en sortant de la chapelle Sixtine.
Le groupe de rock Led Zeppelin l'a utilisé au début d'un morceau. La musique, cette musique a déjà été jouée à l'Eurovision. Ah. Où Mozart l'a écoutée une fois, 3, du coup il l'a retranscrite.
C'était la proms, là.
Victoire, Stéphane, on est obligé,
oui, on est obligé là.
De s'incliner devant Clémentine. Mozart l'a écouté puis l'a retranscrit à l'oreille et de mémoire. C'est un double exploit exceptionnel.
C'est tellement fabuleux, c'est inimaginable.
Vous savez quel âge il avait quand il l'a retranscrit d'oreille ?
Si c'est son premier voyage en Europe, il avait 7 ans. Si c'est le second, il avait plutôt...
Alors, donnez un âge, ouais, celui qui est le plus près de l'âge gagne.
Chacun un âge. Un âge ?
12 ans. Je
12 ans, Stéphane ?
14.
14 ans, bonne réponse de Stéphane qui vole le quiz. Stéphane ne remporte pas le quiz, il le vole. Il le vole à la dernière seconde, c'est magnifique.
C'est un coup d'état.
Un putsch bernien. Quand le pape Clément XIV s'est rendu compte de ce prodige, il n'a pas excommunié Mozart, il l'a félicité, il lui a même décerné l'ordre de l'éperon d'or le 4 juillet 1770.
Moi, j'étais là à parler de son second voyage en Europe et l'autre donne un résultat chiffré au pif et gagne.
Certainement. Même peut-être.
Moi, je m'en fiche, je pars, je vais aller vivre sur en haut d'une colonne.
Mais attention.
Et gober des mouches.
Allez chercher la taraxie loin de ce studio.
Voilà, c'est ça. Mais c'est pas pour aujourd'hui. Hein.
C'est pire que ça. Je pense que quelqu'un en régie a soufflé le 14 à Stéphane. Non, Stéphane, c'était un pur hasard. Vous avez dit 14 ou quelqu'un vous a soufflé la réponse? Oh oui, vu votre regard, on lui a soufflé. C'est honteux, c'est dégueulasse.
Je suis consternée.
Elle a gagné le quiz.
On aura
il faut
tout
être honnête.
Dans ce
Clémentine
quiz.
A gagné.
J'annule votre
quiz.
Victoire, Stéphane. Oui. C'est victoire de Clémentine.
Bravo, Clémentine.
Merci, les garçons,
un peu de justice
merci.
Dans ce bas monde.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre et peut-être êtes-vous en ce moment même en train de vous rendre dans un grand magasin. Pour l'ouverture des soldes.
Le hasard ferait alors bien les choses, puisque Stéphane, précisément, nous consacrons aujourd'hui une émission spéciale à ces personnages de l'histoire qui ont créé des grands magasins.
Oui, après Marguerite et Aristide Boussicot, je vous raconte le destin des Cognac Jay, en fait.
Oui.
D'Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, les fondateurs d'un magasin devenu un véritable monument parisien, la Samaritaine. Quant à vous, Mathieu, vous nous ferez découvrir une enseigne... un peu plus populaire.
Pensez donc, Stéphane, des chemises à 29 euros, des pantalons à 39 euros, des slips à 9 euros.
Horrible, c'est horrible.
Non, c'est H&M, Stéphane, ne soyez pas snob. Et derrière les H&M de H&M, il y a Ennett et Maurice. Deux hommes, non, un seul. Son nom est personne. Erling Persson. Retour sur une incroyable success story qui visiblement est allée jusqu'à vous, Stéphane.
Mais
puisque
on
votre...
est tous en H&M.
Mais
ça,
ouais, mais
je suis...
Non, moi j'ai un t-shirt à 400.
Non, on n'est pas tous en H&M, Stéphane. Mais vous, oui, peut-être, effectivement.
Alors, avec nous, justement, vous avez entendu leur douce voix. Nos chroniqueurs sont là. David Castello-Lopez, vous nous racontez les origines d'une invention qui participe aussi au succès des grands magasins, surtout cet été. Parce qu'on annonce des grosses chaleurs.
Hein. On annonce des grosses chaleurs et l'air conditionné nous permettra de continuer à faire nos achats.
Tranquillement, en bousillant la planète.
Exactement.
C'est important. L'air conditionné, d'où ça vient ? Nous le saurons avec vous, David. Et nous saurons aussi d'où vient l'expression en catimini, Stéphane. Ça sera le mot de la fin.
Oui, je vous le dirai sans me cacher.
Non, sans vous cacher, ça c'est tout vous. Enfin, c'est un journaliste gastronomique qui prend son métier très à cœur. Et vous, Stéphane, vous prenez un malin plaisir à salir ces belles chroniques de votre stupre sadien.
Savez-vous farcir ?
C'est pas évident, hein. Faut faire entrer plein de choses dans une toute...
Ouais, bon, ok. Je m'attendais pas à celle-là.
Et oui, Olivier, il va falloir tenir bon face aux insinuations perverses de Stéphane. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un plat qui ne prête pas à controverse.
Oh, vous savez égrainer ?
Oui.
Ah. Bon, on va égrainer du couscous ensemble tout à l'heure.
Voilà, il peut pas
très
y avoir,
important.
Peut pas y avoir de
on égraine un chapelet en général.
Mais... Oui, mais aussi du couscous. C'est et couscous. Nous verrons d'où vient le couscous parce qu'il y a quand même débat. Hein. Oui. Mais pour l'heure, partons à la rencontre de ceux à qui l'on doit la Samaritaine, c'est-à-dire pendant plus de 15 ans, un gros truc vide en chantier, mais qui revit maintenant. Stéphane Bern nous raconte Ernest Cognac et Marie-Louise Jay.
16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il y a quelques jours, après 16 ans de pause, dirons-nous, la Samaritaine rouvrait ses portes. Ni tout à fait la même, ni tout à fait une autre. Un joyau art déco, temple parisien de la consommation pendant 150 ans, qui fut inventé par un couple qui en connaissait un rayon sur les grands magasins, Ernest Cognac et Marie-Louise G. Stéphane, c'est votre récit. À vous le studio, à vous Cognac G. Ah, j'ai toujours rêvé de dire ça.
C'est vrai, Mathieu, que la rue qui porte leur nom dans le 7e arrondissement de Paris, où se trouvaient les studios utilisés notamment pour le journal télévisé de la première chaîne et auquel les journalistes, présentateurs et speakerines faisaient référence avec le célèbre « À vous, Cognac G !» pour rendre l'antenne, participe aussi de leur notoriété. Mais si les Cognac G sont célèbres, ce n'est pas parce qu'on citait souvent leur nom à la télé, mais bien pour avoir fondé l'un des plus grands magasins parisiens, la Samaritaine. Si elle rouvre ces jours-ci avec un hôtel 5 étoiles, des bureaux, une crèche, des logements sociaux et toujours un grand magasin, replongeons-nous 150 ans en arrière lorsque la Samaritaine attirait le tout Paris, mais pas seulement. Située entre le Louvre et la place du Châtelet, la Samaritaine accueille chaque jour des clients de toutes les classes sociales. Quand Ernest Cognac et Marie-Louise G. l'inaugurent en 1870, le couple n'a qu'un seul objectif, permettre au plus grand nombre de réaliser un maximum d'achats sur un seul et même lieu. À la Samaritaine, les bourgeois croisent des familles modestes, de riches industriels frôlent des filles de joie. Ce 19e siècle marque l'âge d'or de la révolution industrielle. Les époux Cognac G ne s'imaginent pas une seule seconde ne pas prendre le train de la modernité. Pendant plus de 30 ans, ils n'ont de cesse d'agrandir, d'embellir, de bâtir un lieu unique dédié à la consommation. Des minuscules 48 mètres carrés de départ, la Samaritaine s'étendra dans les années 1930 sur plus de 50 000 mètres carrés. L'édifice, conçu par les architectes Franz Jourdain et son art nouveau, et Henri Sauvage et son art déco avec sa façade jaune, ses fresques décorées de pans multicolores, est alors le plus majestueux des grands magasins parisiens. Mais les époux Cognac G ne s'arrêtent pas là. Ils visent d'autres quartiers et une clientèle aux moyens presque illimités. C'est ainsi qu'ils inaugurent en 1917 la Samaritaine de luxe, boulevard des Capucines. De 300 000 francs en 1871, le chiffre d'affaires des magasins de la Samaritaine dépasse le milliard en 1925. Cette attirance pour l'argent, cette soif de réussite, Ernest et Marie-Louise ne s'en cachent pas. L'un comme l'autre ont la fibre du commerce chevillée au corps. Théodore Ernest Cognac naît en 1839 en Charente-Maritime et n'a pas vraiment une enfance heureuse. Son père est bijoutier, mais il rencontre de grosses difficultés financières. Il se donne la mort un an après avoir perdu sa femme. Le jeune Ernest est alors orphelin. Il travaille dans des magasins de nouveautés à Bordeaux et La Rochelle avant de gagner Paris. À force de travail, il met de côté quelques économies et ouvre son propre magasin, le Petit Bénéfice. Malheureusement pour lui, il fait faillite 2 ans plus tard. Il rencontre Marie-Louise G. dans une boutique et en tombe immédiatement amoureux. Elle a grandi en Savoie, son père est maçon, sa mère décrite comme campagnarde. Elle aussi est bien décidée à conquérir Paris. Elle gravit progressivement l'échelle sociale jusqu'à devenir première vendeuse au rayon confection du Bon Marché, premier grand magasin parisien dont nous avons parlé tout à l'heure. En 1870, à force d'économiser, Ernest, qui a 30 ans désormais, s'installe dans un petit local à quelques encablures de la rue de la Monnaie appelée à la Samaritaine, en référence au nom de la première pompe hydraulique située sur le pont Neuf. 2 ans plus tard, il épouse Marie-Louise. Celle dulcinée investit, elle aussi, son pécule dans l'entreprise. Ils sont officiellement à la tête de leur petite affaire et ils comptent bien l'affaire fructifier. Dès lors, les époux Cognac G se dévouent corps et âme à leur bébé, le seul qu'ils auront d'ailleurs, la Samaritaine. Ils rachètent petit à petit les maisons, les boutiques autour et agrandissent toujours plus leurs magasins. À l'intérieur, Ernest et Marie-Louise proposent à leur clientèle des dizaines de rayons de vêtements, de tissus, mais aussi du bricolage, de l'animalerie, de l'oisellerie. Les clients sont aux anges, d'autant plus que les patrons les aguichent avec des arguments commerciaux très alléchants. Marie-Louise prend exemple sur ses anciens patrons, les Boussicots, et applique le principe du prix unique et affiché. Les clients n'ont plus à négocier les tarifs. Ils sont les mêmes pour tous. Comme au Bon Marché, hommes et surtout femmes ont le droit d'essayer les vêtements. Si la taille, la coupe, les motifs ne leur conviennent pas, ils reposent l'article. Il n'existe aucune obligation d'achat. Et ça fonctionne. En 1875, les ventes de la Samaritaine s'élèvent à 800 000 francs. En 1882, elles montent à 6 millions. Et en 1898, à plus de 50 millions. Mais n'imaginez pas que ce couple qui a connu la misère se mette à dépenser des bénéfices sans réfléchir. Bien au contraire, un sou est un sou, se plaît-il à répéter. S'ils vivent dans un bel hôtel particulier, au 65 de l'avenue du Bois de Boulogne, devenu l'avenue Foch, ils ne font aucune folie. Tout l'argent gagné est réinjecté dans leur société. Au quotidien, le couple ne donne pas dans la théâtralité. Ils apparaissent comme des patrons simples mais rigoureux. Ernest Cognac et sa femme Marie-Louise Jay aiment déambuler entre les rayons, montrant à leurs employés qu'ils sont bien présents et qu'ils veillent au grain. Ils déjeunent en décalé pour que l'un des deux soit toujours visible des vendeurs, des coursiers, des couturières. Les salariés surnomment même Ernest Cognac le père Laborème, en référence à la devise de la Samaritaine « Père Laborème », la traduction étant « par le travail ». Pourtant, Ernest et Marie-Louise sont appréciés de leurs employés car ils les impliquent directement dans l'entreprise. Chaque salarié reçoit une prime d'intéressement sur les bénéfices. En juillet 1914, les Cognac Jay leur cèdent en plus la moitié du capital de la Samaritaine. Et s'ils se consacrent pleinement à leur entreprise, Ernest et Marie-Louise s'accordent un petit péché mignon, l'art. Ils sont de grands collectionneurs et n'hésitent pas à exposer leurs nouvelles acquisitions à la Samaritaine du luxe. L'événement est relayé dans les journaux, les curieux se pressent pour découvrir ces tableaux de maître et les amateurs ne résistent pas à acheter un objet savamment entreposé sur les nombreux étalages. Car comme le dit le slogan officiel, on trouve tout à la Samaritaine. Avec les années, la stratégie de communication s'est développée. La Samaritaine s'est notamment illustrée avec des spots publicitaires toujours décalés. Un sosie de la reine d'Angleterre semble ravi de trouver sa royale couronne à la Samaritaine. Une reconstitution plus vraie que nature du film King Kong amuse les spectateurs. La Samaritaine a su se diversifier comme les Cognac Jay à l'époque. Leur fondation, créée en 1916, a permis de créer une maternité, une maison de retraite, un centre d'apprentissage, un orphelinat, une maison de repos, entre autres. Du profit, oui. Mais, Mathieu, du cœur aussi.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler d'Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, nous sommes avec la conservatrice du patrimoine, Annick Lemoine. Bonjour Annick.
Bonjour.
Bonjour Annick Lemoine, vous êtes conservatrice du patrimoine et la directrice du musée Cognac Jay dans le 3e arrondissement de Paris. Je m'arrête d'ailleurs, la rue est dans le 7e, le musée dans le 3e
oui,
et la Samaritaine est dans le 1er.
Géographique.
Bon, bref, il n'y a aucune logique à tout ça. Quelle place le musée fait-il au couple Cognac Jay?
Alors, le couple Cognac Jay, ce sont les héros de notre musée, les fondateurs. Et vous êtes d'une part accueillis par deux fois par leurs portraits. On vous accueille aussi au musée Cognac Jay en célébrant donc nos deux héros, puisque le musée témoigne du goût et de la présentation de la collection telle que le souhaitait Ernest Cognac, c'est-à-dire un musée d'intimité présenté dans le décor du XVIIIe siècle avec les boiseries qu'il avait achetées à dessein. L'accueil et la présence des Cognac se fait à la fois par leurs portraits, évidemment il y a des textes de salle qui les accompagnent, mais aussi par la présentation de leur collection en mêlant tous les arts, donc un musée singulier différent du musée du Louvre par exemple, et qui est une façon très personnelle de présenter cette collection du XVIIIe siècle.
On a écouté le récit de Stéphane et il y a quelque chose qui semble un peu étonnant comme ça a priori, c'est ce goût pour la collection, alors qu'ils sont issus d'un milieu modeste. C'est vraiment la preuve que l'ascenseur social a fonctionné.
Oui, tout à fait. Alors, il faut savoir que si leur histoire est une histoire d'un couple, l'histoire de leur collection, en revanche, est plus personnelle, puisque c'est Ernest Cognac qui collectionne. Et effectivement, c'est plutôt singulier dans le paysage contemporain. C'est quelqu'un qui ne s'interdit rien, hein, qui va se cultiver, apprendre. Et je pense aussi que, évidemment, ce goût pour la collection est peut-être une façon de vouloir s'enraciner dans ce petit milieu, cette communauté d'hommes de goût et d'hommes de pouvoir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas en faire, à la différence d'autres financiers de l'époque, une façon d'asseoir officiellement son statut social. Mmh. Puisque dans un premier temps, sa collection reste intime, ils reçoivent peu, et c'est qu'à la fin de sa vie qu'il va décider de léguer sa collection à la ville de Paris.
L'art, on le retrouve aussi dans le style du bâtiment, la Samaritaine, la façade qui mélange art déco et art nouveau. Parmi les piliers de sa réussite, il y a cette association avec l'architecte Jourdain. C'est une association complètement capitale pour lui.
Ah oui, je pense qu'elle est effectivement capitale. Un coup de génie. Un coup de génie d'abord parce qu'il crée cette façade et ce bâtiment absolument extraordinaire, très singulier. Donc c'est une façon d'incarner son magasin et d'avoir une vraie identité forte, qui d'ailleurs le demeure aujourd'hui. On sait que Jourdain a aussi été leur architecte pour eux,
hein, d'un point de vue
personnel. Ensuite, il y a sans doute une amitié, quelque chose de très, un lien très proche entre les deux hommes. Et c'est Jourdain qui va accompagner Ernest Cognac dans un tour des capitales européennes en 1904. Il amène Ernest Cognac à Londres, toujours dans cette idée de voir les grands magasins, et il lui fait visiter la Wallace Collection, hein, cette collection créée en France de Sir Richard Wallace, mais qui vient d'ouvrir ses portes depuis 4 ans et qui est une sorte de modèle, puisque c'est extrêmement proche de ce que finalement va devenir le musée Cognac-Jay.
Ce qui est aussi incroyable, on parle toujours des Cognac-Jay, peu de gens savent que c'est un couple, et c'est une formidable histoire de couple. Ils ont fait preuve de beaucoup de dévouement, de beaucoup de sacrifices. Au fond, leur bébé, c'était... ils n'ont pas eu d'enfant, leur bébé, c'est la Samaritaine, et puis peut-être ils se sont perpétués à travers ce musée.
Ah, tout à fait. Oui, je pense. D'ailleurs, c'est Ernest Cognac qui collectionne, mais il donne comme nom à son musée Cognac G, vraiment pour marquer cette union jusqu'à au-delà de leur mort. Le musée porte le nom des époux, ce qui est symptomatique, je pense, d'une union. Et je pense que ce qui a fait aussi leur force, parce qu'ils viennent du même milieu, ils ont un parcours très très proche, ils viennent tous deux, non pas de Paris, mais lui d'Île de Ré, elle de Haute-Savoie. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avant de créer son musée à Paris, tous deux ont créé dans leur ville natale, chacun ont créé un petit musée. Lui, un petit musée à l'Île de Ré, et elle, un jardin. Un jardin remarquable, spécialisé dans les plantes alpines. Donc ils, déjà, ont ce goût partagé du patrimoine, de leur région, de leur histoire, qu'ils vont ensuite unir à Paris.
Et ce qui est beau aussi dans ce couple, on va terminer là-dessus, c'est que les affaires ne sont pas incompatibles avec la philanthropie. Ils ont beaucoup œuvré dans ce sens aussi.
Ah oui, tout à fait. À la fois au sein de leur propre entreprise, et en 1916, ils créent une fondation Cognac-Jay d'intérêt public. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsqu'il décide de créer son musée, il anticipe en organisant plusieurs expositions de sa propre collection dans la Samaritaine du Luxe, qui était une annexe de la Samaritaine pionnière, dans le quartier de l'Opéra, parce que c'est un lieu où il n'y a pas à proximité de musée, et il souhaite partager sa collection et faire connaître l'art à la fois à ses employés et à ses clientes. Évidemment, il y a aussi sans doute une volonté de créer une animation dans un quartier hautement commercial. Et de manière imperceptible, nous sommes dans la Samaritaine du Luxe et on passe dans ces salles où on découvre la collection d'Ernest Cognac, mais les tapis sur lesquels sont présentées les œuvres, eux, sont à vendre.
Très bien, merci beaucoup Annick Lemoine d'avoir évoqué avec nous l'histoire de la Samaritaine et de ce couple Cognac-Jay. Pour les curieux qui voudraient voir leur collection ainsi que l'expo temporaire L'Empire des Sens de Boucher à Greuze, rendez-vous au musée Cognac-Jay, donc j'ai dit c'est dans le 3e arrondissement de Paris.
Et l'exposition se termine le 18 juillet.
Ah, donc il faut se dépêcher.
Oui. Il faut se dépêcher.
Ah oui, très bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, pour fêter l'ouverture des soldes d'été, nous rendons hommage à ces personnages qui ont créé les grands magasins. Après Ernest Cognac et Marie-Louise Jay, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai de celui qui a créé H&M. Et celui qui a créé H&M, c'est personne.
Oui, c'est personne, et pourtant vous allez voir, c'est quelqu'un, ce personne. Erling Persson est suédois. J'ai envie de dire, évidemment, tant les Suédois semblent être à l'origine de 90% des business qui ont cartonné dans la deuxième moitié du XXe siècle. Et il a créé H&M, Hennes & Mauritz, célèbre chaîne de prêt-à-porter, qui n'a donc pas été créée, comme je l'imaginais en amont de cette chronique, par une meuf qui se serait appelée Hennes et un gars qui se serait appelé Maurice. Hennes aurait rencontré Moritz dans la moiteur des années 40, dans un camp d'été des jeunesses hitlériennes sur les rives du Faxalven. Elle lui aurait dit...
De skal stå på bilårsvej, og den ejer jeg.
Soit probablement. Il fait chaud, Moritz, je n'aime pas beaucoup les nazis. Si on crée une chaîne de prêt-à-porter, Moritz aurait répondu. Bonne idée, Inès. Et bien sûr, on fera produire au Bangladesh pour minimiser les coûts. Vision castellopienne de l'histoire, qui donc ne colle pas du tout à la réalité, puisque Inès et Moritz n'ont jamais existé en tant que personne. H&M est la création d'un seul homme, Erling Persson. Et c'est devenu une des chaînes de grands magasins les plus rentables au monde. Alors, je prends des gants pour vous en parler cet après-midi. La fast fashion, comme on dit, ayant tendance à donner de l'urticaire à Stéphane Bern. La dernière fois que Stéphane a mis les pieds dans un grand magasin, ça remonte à loin.
Félix Potin.
Ah oui, si loin. Oui, non, je suis mauvaise langue. Évidemment qu'il arrive à Stéphane de se rendre dans un grand magasin. On en a parlé, ça s'appelle le bon marché. Si vous n'habitez pas Paris, sachez que du point de vue littéraire, le bon marché est une antiphrase. Hein, je dirais même, vu les prix, une antiphrase de type ironique. Mais bon, ça reste ouvert à tous. Évidemment, Stéphane ne s'y rend pas tout seul au bon marché, dans la masse, mais avec Andrew McMillan, son personal shopper, avec qui il fait une razzia à chaque fois.
Argenterie, porcelaine, robe, mobilier Louis XVI, jusqu'au mouchoir brodé, aux gants de toilette, tout y passe.
Tout y passe. Alors forcément, H&M pour Stéphane, c'est un autre monde. Le jour où il se décidera enfin à faire son rendez-vous en terre inconnue, il permettra à France 2 d'importantes économies, puisque pour le dépayser, inutile de prévoir un aller-retour aux Ambès pour aller à la rencontre des Oompa Oompa, il suffit d'un ticket de métro pour les grands boulevards. Pour aller à la rencontre de cette étonnante tribu, Stéphane, qu'on appelle les gens normaux. Alors si pour vous, Stéphane,
très moqueur
parler du prix d'une étoffe ne se fait pas pour nous autres, les gens normaux, c'est tout à fait normal, c'est même le premier truc qu'on dit. J'adore ton chemisier. Écoute, H&M, 11 euros. Non, je te jure, il y a encore pas sûr, c'était il y a 3 jours. Oui, qui dit H&M dit rendement. Quelques chiffres. 41% des 18-25 ans portent une nouvelle tenue à chaque sortie. La quantité de vêtements jetés par les Américains a doublé en 20 ans. Chaque Américain produit environ 17 kilos de déchets textiles par an, soit une augmentation de 750% depuis 1960. Dernièrement, une montagne de vêtements jetés à l'extérieur de la capitale ghanéenne d'Accra a produit tellement de méthane qu'elle a explosé.
Oh Seigneur.
Cerise sur le gâteau déjà indigeste de cette fast fashion mondialisée, avec la sous-traitance en chaîne qui dilue la responsabilité des grandes enseignes, dans certains pays de production comme la Malaisie ou le Bangladesh, le salaire mensuel des ouvriers du textile ne dépasse pas les 3 euros. Vous comprendrez qu'en ce jour d'ouverture des soldes, j'ai eu envie de rendre hommage au pionnier de la fast fashion, Erling Persson, suédois donc. Il naît en 1917 dans la petite ville de Borlänge, au nord-ouest de Stockholm. Il est fils de charcutier. Son père lui imagine déjà un bel avenir dans le pâté en croûte. Seulement voilà, Erling ne supporte pas la vue du sang et la souffrance animale. Lors de la visite d'un abattoir, il est ému par le canard qui fait
« coin, coin »,
par le coq qui fait
« kikiriki, kikiriki »
et par le mouton qui fait
« bé ».
Et non, Erling ne sera pas charcutier. Doté très jeune d'un sens des affaires incroyable, il se lance dans la vente de stylos et de montres importées du Japon. Mais c'est lors d'un voyage aux États-Unis qu'il a l'idée qui va changer sa vie et la nôtre par ricochet. Il est subjugué par l'efficacité de l'organisation des grands magasins, et ce malgré leur taille immense. Il s'installe dans les rayons, se planque entre le peanut butter et le cinnamon roll pour prendre des notes. Comment peut-il y avoir tant d'articles et à des prix si bas? Nous sommes en 47, Erling rentre en Suède et décide d'appliquer la recette américaine. Il lance son enseigne de vêtements féminins à bas prix, pas n'importe où, à Västerås, à une centaine de kilomètres de Stockholm, que le Figaro nous décrit ainsi, je cite, « Västerås ou l'équivalent de l'Auvergne en Suède, une région pauvre où un sou est un sou. » Fun fact, c'est de là aussi que vient Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA. Enes est donc encore moins le nom d'une femme que je l'imaginais, puisqu'en fait ça veut dire simplement « femme » en suédois. Le magasin est un succès. 5 ans plus tard, Erling ouvre sa première boutique à Stockholm. Et il se développe encore plus en rachetant l'enseigne d'un fabricant de fusils et de tenues de chasse, baptisé
Moritz
et Wildorf. Ça y est, Enes et Moritz, ils gardent que le Moritz. Enes et Moritz est né. La chaîne s'adresse désormais aux femmes et aux hommes autour de ce concept simple, vendre beaucoup, vendre pas cher et vendre vite. Avec, justement, Ingvar Kamprad et Per Albin Hansson, le dirigeant social-démocrate de l'après-guerre, le patron d'H&M est alors considéré comme participant à la trinité du bien-être à la suédoise. En même temps, c'est vrai, une démocratie, un sweat à capuche et une bibliothèque en kit. Est-ce qu'on a véritablement besoin d'autre chose pour être heureux dans la vie? Non. Les Suédois l'ont compris. Erling est content. Erling est riche. Il prend sa retraite, refile les manettes à son fils, Stéphane, qui lancera H&M à la conquête de l'international. Il faudra néanmoins attendre l'an 2000 pour que Erling assiste à l'ouverture du premier H&M aux États-Unis, là où son idée a germé. Estimant certainement que la boucle est bouclée, il décède 2 ans plus tard. La success story continue sans lui, mais voilà. Dans les années 2010, une sale petite musique commence à monter dans l'opinion publique. La fast fashion, ça serait mal. Ça ferait bobo à l'environnement et aux mains des petits Chinois. En 2013, la pression est si forte que H&M décide de changer sa com. Désormais, leur priorité est claire, Stéphane. L'écologie. Leur nouveau slogan, l'écologie...
Non, merci.
Non, l'écologie pour tous. Avec la marque conscious. H&M nous propose désormais une gamme de vêtements conscients. Conscients de quoi ? Eh bien du fait qu'avant on faisait n'importe quoi, et dans le rayon d'à côté, on peut continuer à faire n'importe quoi, et c'est pas grave parce que sur les 2600 m² que le magasin, il y a 8 m² dédiés à des vêtements durables en coton bio. C'est beau, c'est altruiste, c'est complètement désintéressé, et pourtant Stéphane, certains les accusent de greenwashing.
Ça c'est la France.
Bah oui c'est la France, jamais content, toujours mettre en doute la sincérité des gentilles multinationales qui payent leurs impôts aux îles Caïmans. Ce qui n'est pas le cas d'H&M, je le précise, H&M paye ses impôts moitié en Suède. Et je peux vous dire que ça douille en Suède les impôts, moitié au Bangladesh, où ça douille un peu moins. Hein. En 2008, ils ont payé au fisc bangladais la somme colossale de 58 euros d'impôts. Oui, je comprends mieux Stéphane pourquoi vous avez commandé le Lonely Planet Bangladesh. Je me disais aussi que ça devait pas être pour le climat.
Oh non, mais quel... Voyez, vous... c'est insultant, merci Mathieu.
C'est insultant, merci Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces entrepreneurs qui nous ont permis de dépenser l'intégralité de notre salaire dans un seul et même endroit.
Alors, avec ce qu'il nous reste, on paiera Pouls et Castello, qui heureusement sont là uniquement pour l'amour de l'histoire, l'histoire qui se conjugue au présent dans cette dernière demi-heure. Vous le savez, Olivier Pouls, vous nous racontez l'histoire d'un plat, aujourd'hui un plat que les Français adorent, mais qui n'est pas de France à la base.
Non, ça je vous le confirme, c'est le couscous, ça vient d'un peu plus au sud.
Le mot de la fin, ça sera Stéphane qui l'aura. Une expression aujourd'hui, Stéphane ?
Bah, vous savez, vous me connaissez, moi je fais les choses publiquement, je ne suis pas de genre à les faire en catimini. Bah, d'ailleurs, je vais vous le dire. D'où vient cette expression ?
D'Italie.
On verra.
Moi, je suis sûr que oui. Les origines d'un objet de notre quotidien ou d'une invention qui nous simplifie la vie, surtout quand les grosses chaleurs arrivent. L'été sera chaud, heureusement. David Castello-Lopez nous parle de la climatisation, l'air conditionné. D'où ça vient ?
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'été sera chaud, sous les t-shirts, sous les maillots, disait le poète. David Castello-Lopez, vous nous parlez d'une invention fort utile, pas très bonne pour l'environnement, mais néanmoins pratique, c'est l'air conditionné.
Oui, je vous ai remarqué, j'ai insulté beaucoup d'objets cette année, les traitant notamment de FDP. J'ai insulté le cellophane, qui est quand même un sacré FDP. Et j'aimerais réitérer aujourd'hui en traitant l'air conditionné de FDP. J'ai vécu plein de moments dans ma vie où l'air conditionné a ruiné l'instant que j'étais en train de vivre. Parce que je fais partie des gens qui tombent malades dès que la clim est trop forte. Et je me suis retrouvé plusieurs fois à avoir des rhinopharyngites sous les tropiques, des angines à la plage, des fluxions de poitrine au bord de la piscine. Donc, ça m'énerve. Et j'ai vécu des situations aussi complètement absurdes. En 2008, je vivais en Colombie. J'ai pris un bus de nuit entre Bogota et Medellín. Et dans le bus, il faisait 12 degrés parce qu'il n'y avait aucun moyen ni de baisser la clim, ni d'ouvrir les fenêtres. Et on aurait pu se dire, ouais, mais les Colombiens, ils devaient être habitués. Mais pas du tout. À côté de moi, il y avait un soldat qui devait avoir 19 ans et qui grelottait comme un enfant dans son treillis, au point qu'il y a une vieille dame qui a fini par lui donner sa couverture. C'était une scène qui aurait pu être tirée d'un film sur la Deuxième Guerre mondiale, sauf que l'ennemi, c'était pas les balles des nazis, c'était du faux froid. Mais alors, d'où il vient ce faux froid de bâtard ? Eh bien, tout a commencé dans une imprimerie à Brooklyn au début du XXe siècle. C'était une imprimerie chic qui faisait des choses de haute qualité, qui imprimait en couleur selon un procédé qui nécessitait, comme souvent, que le papier soit parfaitement plat. Or, à New York, il y avait eu deux étés de suite, des chaleurs de malade et des taux d'humidité très élevés. Et pour le papier, ça, c'est nul. Parce que le papier, quand il fait chaud et humide, ça gondole. Et quand le papier gondole, c'est beaucoup plus dur d'imprimer des choses correctement. Et l'imprimerie, elle cherchait des solutions pour régler le problème. Et là est intervenu un jeune ingénieur de 25 ans qui s'appelait Willis Carrière. Et Willis, il a dit « Attends, je vais gérer le truc ». Et il a géré le truc en fabriquant une machine qui enlevait l'humidité de l'air. Comment ? Eh bien, entre autres, en faisant passer de l'eau froide dans des tuyaux, ce qui faisait que l'eau se condensait dessus et n'était plus dans l'air, un peu comme sur un verre de mojito à la plage.
Si vous voyez. J'aime bien cette comparaison. Oui, là, voilà, quand vous prenez exactement. Les exemples de ma vie quotidienne, je comprends mieux.
Eh bien, ça marche. Et ça a permis à l'imprimerie de régler son problème de papier gondolé, mais aussi, d'après ce que j'ai compris, parce que bon, c'est un petit peu technique quand même, ça avait pour effet de refroidir la pièce. Et petit à petit, Willis, il a amélioré son système. Il a sorti le premier climatiseur électrique moderne, mais à l'époque, c'était utilisé uniquement dans les industries pour, comme pour le papier, pour régler l'humidité ambiante. Et puis, au bout d'un moment, au milieu des années 20, on s'est dit, Attends, mais on peut peut-être aussi refroidir les endroits juste parce que c'est plus agréable pour les gens qui y sont, quoi. Et on a commencé à installer la clim dans les grands magasins aux États-Unis. Bam, petit lien avec le thème de l'émission d'aujourd'hui.
Bravo, David.
Puis, dans les cinémas, et ça a fait exploser le nombre de tickets de cinéma vendus l'été. Les gens allaient au cinéma pour ne pas avoir trop chaud. Et enfin, en 1928, la première clim pour particuliers est sortie. Alors d'abord, ça n'a pas eu trop de succès à cause de la Grande Dépression et de la guerre. Mais après la guerre, ça a cartonné. Et bon, je sais que j'ai dit beaucoup de mal de la clim dans mon introduction, mais il faut voir que la clim, ça a quand même fait pas mal de bien à l'humanité dans un premier temps. C'est la clim aux États-Unis, ça a permis de développer des zones entières du pays qui seraient restées des bourgades sans ça. Phoenix, dans l'Arizona, par exemple, il fait 45 degrés l'été. Et ben, en fait, si ça s'est développé économiquement, c'est qu'on a pu y vivre un peu comme on vit dans des endroits un peu où il fait moins chaud. Pendant longtemps aussi, aux États-Unis, il y avait des trous dans les naissances à certains moments de l'année, en particulier parce qu'au mois d'août, les gens faisaient moins l'amour à cause de la chaleur. Et la clim a permis en partie de résorber ces trous dans les naissances. Mais bon, le développement de l'air conditionné, c'est cool pour tout le monde, sauf pour moi et pour la planète aussi.
Il y a quelques années,
la planète et moi. Il y a quelques années, on a estimé que la consommation d'électricité liée à l'air conditionné aux États-Unis, c'était l'équivalent de la consommation d'électricité de toute l'Afrique pour tout ce qu'il y avait en Afrique. Et ça va pas aller en s'arrangeant.
Non.
Parce que les pays où il fait très chaud, c'était pendant longtemps des pays pauvres qui avaient pas les moyens de se payer la clim. Mais maintenant qu'ils sont moins pauvres, il fait toujours aussi chaud, et ben ils veulent la clim, normal. Et aujourd'hui, il y a presque 2 milliards de clims qui ont été installés dans le monde, et on estime qu'en 2050, il y en aura 5,5 milliards, et ça va représenter presque 40% de la hausse de consommation d'électricité. Donc je reviens à ce que je disais au début, l'air conditionné, c'est quand même un sacré FDP.
Merci David. Les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr.
Olivier Pouls arrive avec un plat d'un pays chaud, mais oui, qu'on adore en France, le couscous.
Ben oui, c'est l'un des deux ou trois plats préférés des Français, et ce depuis bien longtemps. Même si vous allez le voir, en France, on a découvert le couscous relativement tard. Mais le couscous est, lui, beaucoup, beaucoup plus ancien, et il revient, on le sait maintenant, au peuple nomade, les Berbères, qui sont les inventeurs du couscous. On a retrouvé quelques pots ayant servi probablement à réaliser les premiers couscous de l'histoire et qui remonteraient à 3 siècles avant Jésus-Christ. Et on a même retrouvé dans le nord de la Kabylie des restes de ce qui pourrait être le premier couscousier, le premier plat qui a permis d'élaborer le couscous. Et là, on est aux alentours du 11e siècle. Alors, à l'époque, on l'appelle le couscousou en arabe, et les premiers livres de cuisine de l'Occident islamique au XIIe et XIIIe siècle en donnent déjà des recettes. Alors, il n'y a pas une recette de couscous, évidemment. Il y en a des dizaines, voire des centaines, en fonction des villages, en fonction des pays, en fonction des traditions, en fonction de ce qu'on peut trouver, d'ailleurs, à y mettre dedans sur place. En France, on en parle un petit peu à partir du XVe, XVIe siècle. Rabelais, par exemple, ou Dumas l'évoque dans leur récit. Mais le plat ne s'est pas vraiment imposé et on ne le connaît pas très bien. Le couscous, c'est un trio, hein, c'est de la semoule de blé, même si dans certaines régions on le fait avec du millet. C'est un bouillon et de la viande. Et alors, petit fun fact, le couscous dit royal qu'on trouve dans beaucoup de restaurants, voilà, n'existe pas du tout. C'est une invention purement française qui consiste à faire un couscous plus riche et qui en claque un peu plus que les autres, parce que le couscous traditionnellement,
c'est
quand il est fait par les Berbères, par les Arabes, c'est une seule viande et des légumes. Alors après, on peut choisir. Et puis, dans certaines régions, on le fait même avec du poisson. Je sais que Stéphane préfère le couscous de poisson.
Non, mais j'aime tout.
Vous n'êtes pas difficile, vous.
J'aime bien les merguez quand même.
Bah moi aussi, c'est bon.
Non, moi, c'est le couscous méchoui que je préfère.
Ah,
ça,
oui,
c'est vraiment
avec
le
mouton. Au mouton.
Ouais. Ouais, exactement.
Et le couscous, le poulet, on met beaucoup de poulet,
ouais,
aussi.
Ben moi, je vais vous donner dans un instant une recette facile de couscous au poulet pour cet été. C'est au XXe siècle, hein, qu'en fait le couscous va vraiment se populariser chez nous, avec bien sûr l'arrivée de populations venues d'Afrique du Nord et notamment le retour des pieds noirs qui vont utiliser le couscous comme continuateur de lien social entre eux. Et pour se retrouver, ben, le prétexte, ce sera de faire des couscous et de se réunir.
C'est pas pour deux, quoi. Hein,
ben, difficilement.
Sa famille ou tout
et
le quartier.
À propos de ciment, ça fait grossir ou pas la semoule du couscous?
Alors, mais non. Oui, bah, non. La semoule de blé peut faire un petit peu grossir. Oh. Si vous le faites avec des viandes qui sont pas trop grasses, comme de la volaille, et des légumes, c'est pas une bombe calorique.
Non. Non, vraiment, un couscous poulet l'été avec des petits légumes.
La merguez fait plus grossir que la semoule. Hein.
Bah, la semoule, quand même, c'est comme les pâtes ou le riz, c'est quand même 350 calories par 100 grammes. Donc, vous voyez, vraiment,
il faut
attention.
Pas en manger trop.
C'est un maniaque, les légumes. Ça doit être infernal de partir en vacances avec vous.
On part pas en vacances.
Cet été, on part pas en vacances ensemble, c'est pas prévu.
Je suis discret avec le comptage de calories. Il se trouve que là, j'en parle publiquement, mais normalement.
Non, mais tu sais, tu fais les courses, tu vas faire les courses au début de l'été avec tes potes.
Il y a un compteur qui tourne.
Non, alors là, attention. Parce que là, tu as 17 calories par mètre.
Lui, le problème, c'est pas le budget, en fait, c'est les calories. Il y en a qui se fritent sur le budget bouffe, il y en a d'autres, c'est sur les calories.
Mais c'est moi tout seul, je ne l'impose à personne.
Oui, bien sûr.
Bon, alors, moi, je vais vous livrer une petite recette de couscous telle qu'on me l'a montrée. Alors, c'est couscous volaille, donc un poulet coupé en morceaux, des légumes qu'on trouve en ce moment. Alors, on peut mettre de la courgette, un fenouil plutôt, quelques carottes, un oignon. Il faut de la purée de tomate, très important. Et puis surtout, les fameuses épices à couscous, ce mélange, le ras el hanout, que vous trouvez très facilement dans des épiceries aujourd'hui. Vous allez colorer vos petits morceaux de poulet avec un peu d'huile d'olive. Coupez les légumes en gros dés. Et alors après, le secret, c'est dans une grande casserole de faire d'abord revenir cette fameuse purée de tomate avec un petit peu d'huile d'olive dedans. On rajoute tous les légumes, on rajoute le poulet, on rajoute les épices, on mouille et on va laisser cuire pendant 35-40 minutes, le temps que tout ça soit bien cuit. Et pendant ce temps, on va commencer à s'occuper tranquillement de sa semoule. Donc ça, on l'achète évidemment. Hein. La semoule dans laquelle on a mis auparavant une petite cuillère d'huile d'olive. Alors, il y a deux manières de la cuire. Il y en a qui la cuisent à la vapeur. Hein. Si vous avez une couscoussière, vous pouvez la cuire comme ça. Sinon, eh bien, tout simplement, dans un bocal ou dans un pot, vous mettez votre semoule. Vous mouillez avec du bouillon que vous avez prélevé de votre préparation. Vous couvrez. Vous attendez 10 minutes. Elle va gonfler. Elle sera cuite. Et après, il va falloir l'égrainer. Ça, c'est très important. Et donc, l'égrainer, voilà, c'est avec une fourchette. Ça consiste à décoller les grains de manière à ce qu'on n'ait pas une espèce de truc un peu plâtreux qui viennent dans l'assiette, mais qu'on ait les grains qui viennent se détacher. Donc un petit peu d'huile d'olive ou du beurre un peu rance, certains l'utilisent. Ce qui donne du goût d'ailleurs au couscous. Et c'est parfois le secret des très très bons couscous.
C'est le secret des très bons couscous, mais ça a un inconvénient, c'est qu'on ne peut pas le manger tout le mois. Quand je fais du couscous, il y en a beaucoup, et j'aime bien pouvoir le manger quelques jours après. Si le beurre est rance dès le début,
c'est compliqué.
C'est un couscous qui se mange intégralement le soir même.
Mais vraiment, la rancitude du beurre, c'est quelque chose qui est positif.
Ça marche sur le couscous.
Ça donne un goût à cette semoule. Voilà. Et puis après, il n'y a plus qu'à évidemment tout servir dans un plat avec ce.
Le couscous, le mot, c'est parce que ça fait chiqui 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 quand son.
Non, chiqui chiqui. Chiqui chiqui.
Couscoussou, vous nous avez dit, mais ça veut dire quoi couscoussou en arabe? Vous n'en avez aucune idée, bravo,
okay, bravo.
Olivier, là ça arrête vos connaissances, il est remonté aux origines, mais sans aller jusqu'à enquêter sur le nom. Olivier Pouls, merci. Tout de suite, c'est la chronique de Stéphane, le mot de la fin que vous attendez tous, l'histoire d'une expression aujourd'hui en catimini.
Oui, quand on fait les choses un peu sous le manteau, de façon discrète, on dit en catimini. D'où ça vient? Je vais vous l'expliquer sans me cacher.
Bon, écoutez, c'est la fin de la saison, je me lance, c'est de l'italien, ça vient de la Renaissance, en catimini.
Pour vous proposer de rester digne, Mathieu, jusqu'à la fin, je vais hélas vous révéler la vérité.
Ça vient pas de là.
Non, ça vient du grec, katamenia. Le mot désigne les règles chez les femmes. À y réfléchir, c'est vrai que le tabou enveloppant encore aujourd'hui cette réalité physique a un lien direct avec la honte que l'on dissimule. Ce qu'on veut occulter, en quelque sorte. D'ailleurs, au XVIe siècle, pour désigner ce moment pénible, on disait « avoir ses affaires, avoir ses choses, ses catimini ». De nos jours, même, on utilise toutes les périphrases possibles pour ne pas prononcer le mot « menstruation ». Ben voilà, zut, je l'ai dit. En catimini, pour être complet sur la question, pourrait également venir de la Picardie du XIIIe siècle. Le chat se disait « caté ». Et à la place du minou, on disait aussi mini. Catémini donnera chatemite. Tout cela pour désigner l'animal à quatre pattes qu'on estimait peu à cette époque, tellement on l'associait au diable et à un esprit fourbe faisant les choses en douce. C'est vrai que les chats par rapport aux chiens sont moins francs du collier. Appréciez la qualité du jeu de mots.
Oui, elle est très bonne, Stéphane.
Aujourd'hui, pour dire en catimini, en Espagne, on dit por debajo de la mesa, sous la table. En hébreu, on dit comme des voleurs de nuit. C'est joli. Au Brésil, c'est nasurnina, en sourdine. Et chez les Néerlandais, c'est sous la casquette. Ça change de sous le manteau. Allez, pour ceux qui n'assument pas trop de faire des choses en catimini, consolez-vous avec ce joli constat de Romain Gary. La vraie maison de l'amour est toujours une cachette. On ne peut pas lui donner tort.
Je ne crois pas du tout à à la version de Catimini qui viendrait du 13e siècle en Picardie, avec cette histoire de Catimini, de Chatmite,
c'est Catéménia qui veut dire les règles en grec. Bien sûr, ça se tient.
Ça a l'air suffisant, en fait.
Suffisant. Mais vous savez, je suis là pour vous donner toutes les explications possibles.
Il ne laisse aucune piste comme ça, il explore toutes les pistes. Historiquement vôtre, c'est terminé. Vous pouvez désormais vous ruer dans les grands magasins pour les soldes d'été. Stéphane, je me trompe ou vous n'êtes pas du genre à faire les soldes?
Non, pas du tout. En fait, je porte toujours la même chose. Je suis pour la décroître. Non, mais c'est vrai, je reconnais. Ouais. Je n'aime pas tellement faire les courses.
C'est tout à votre honneur. Demain, on a rendez-vous avec trois femmes qui n'ont visiblement pas trouvé de chaussures à leur taille.
Non, elles évoluaient pieds nus, Mathieu. Mais elles l'ont choisi, évidemment. Hein. On réunit la danseuse aux pieds nus, Isadora Duncan. La diva du Cap Vert, vous l'avez peut-être connue, Césaria Évora.
Bien sûr. Ah, oui. Et une autre diva aux pieds noirs, celle-là, à force de marcher pieds nus partout, même sur les plateaux télé, la chanteuse Camille.
Et vous, vous garderez vos chaussures?
C'est préférable, oui. À demain, Stéphane.
À demain, Mathieu.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.